Tout de suite, c'est le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour.
Bonjour. Emmanuel Macron sur les nouvelles routes de la soie qui ne doivent pas être, selon lui, à sens unique. Le président français est arrivé en Chine cette nuit pour une visite d'État qui doit durer 3 jours. En entrant dans l'Empire du Milieu par la ville de Xi'an, qui fut un des points de départ de la route de la soie, Emmanuel Macron espère envoyer un signal fort sur sa vision des échanges commerciaux du futur entre la France et la Chine. Correspondance à suivre de Julie-Marie Lecomte, invitée de ce journal, Jean-Luc Domenac, politologue et sinologue. Les chiffres des demandes d'asile en France en nette hausse pour 2017, d'après l'OFPRA, plus 17%. L'an dernier, un peu plus de 100 000 personnes ont déposé un dossier, ce qui représente un record historique, un record qui s'explique néanmoins, comme nous le dira Marie-Pierre Véraud dans ce journal. En Allemagne, un mouvement de grève d'ampleur débute aujourd'hui à l'appel du syndicat IG Metall. 150 entreprises de la métallurgie au total pourraient être touchées par des débrayages. Il s'agit d'appuyer des négociations avec le patronat, qui pour l'instant reste dans l'impasse. Au cœur des revendications, une hausse des salaires et la semaine de 28 heures. Correspondance et explication de Cyril Sauvageau à Berlin. La deuxième partie de la grande table, Olivier Gesbert avec
la
vous.
Oui, la mémoire longue des Klarsfeld, Beate et Serge que nous recevrons donc dans la deuxième partie de l'émission. On va reparler mémoire effectivement et les combats de leur vie. Une exposition les retrace actuellement au Mémorial de la Shoah à Paris. On va revenir aussi sur des questions d'actualité et notamment sur cet antisémitisme qui ne s'arrête jamais. On reparlera de la réédition aussi envisagée, plus que polémique, des pamphlets antisémites de Céline. Tout cela avec eux à partir de 12h55.
À tout à l'heure, Olivia. Emmanuel Macron n'a pas hésité ce matin, dès son arrivée sur le sol chinois, à parler, non pas seulement en tant que président français, mais aussi au nom de l'Europe tout entière. L'occasion était trop belle au début de cette visite d'État. Arrivé dans la deuxième puissance économique mondiale, lui permet de continuer à tenter de prendre un peu de hauteur sur la scène internationale. Et il n'a pas lésiné sur les symboles en choisissant la ville impériale de Xi'an comme porte d'entrée en Chine. Julie-Marie Lecomte, c'est l'envoyée spéciale de France Culture.
Intelligence, justice, équilibre, ce sont les trois piliers sur lesquels Emmanuel Macron entend construire l'amitié entre la France et la Chine. La franchise du discours est assumée. Il n'hésite pas à inviter son hôte communiste à miser davantage sur l'individu et l'esprit d'entreprise. Emmanuel Macron est pour la première fois en Chine et il le dit tout net. Avec lui, c'est l'Europe qui est de retour. Une Europe qui réclame davantage de réciprocité dans ses échanges avec la deuxième puissance économique mondiale. Mais le président français le dit aussi, plus que jamais, la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est un partenaire incontournable sur la scène internationale pour lutter aussi bien contre le terrorisme que contre le réchauffement climatique. Lors de son entrevue avec Xi Jinping cet après-midi, il entend d'ailleurs proposer à son homologue un plan pour relancer la bataille du climat.
Julie-Marie Lecomte, bonjour Jean-Luc Domenac.
Bonjour.
Et merci d'être l'invité de ce journal, politologue et spécialiste de la Chine. Emmanuel Macron annonce ce matin qu'il veut aller chaque année en Chine pour maintenir des liens. Alors c'est assez inédit dans la diplomatie française. Est-ce qu'il en fait trop ou est-ce qu'au contraire, selon vous, il rattrape un retard dans les relations franco-chinoises ?
Il rattrape un retard. Les Allemands, les Anglais sont beaucoup plus souvent que nous en Chine. Et tout cela se traduit sur la courbe des échanges qui est, comme vous le savez, assez plate du côté français. Hein. Donc là, c'est vraiment le minimum ce qu'il propose et il faudra même qu'il reste plus longtemps.
C'est encore un peu timide, selon vous, une visite d'État, 2 jours et demi, 3 jours?
Ah, ça, c'est pas assez, c'est presque insultant. C'est presque insultant pour l'orgueil des Chinois.
Qui vont l'accueillir, du coup, avec réserve?
Comme ça.
Avec un peu d'attente.
Poliment. Et vous savez, en Chine, la France n'est pas grand chose, faut bien le dire. Hein. Nous sommes le huitième partenaire économique de la Chine, et pour les Chinois, le pays important en Europe, c'est l'Allemagne.
Du chemin à rattraper. Donc vous restez avec nous évidemment Jean-Luc Domenac. Cette visite d'État d'Emmanuel Macron a bien sûr été préparée en amont comme tout voyage officiel, mais comme depuis le début de son quinquennat, avec une recette qui semble être propre au président français. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Du service politique de France Culture. Vous décryptez pour nous la méthode Macron de mise en condition, de préparation de l'opinion en amont de ce qu'on appelle les voyages officiels, à base d'entretiens avec des leaders d'opinion soigneusement sélectionnés.
Oui, le chef de l'État a rencontré 10 personnes spécialistes de la Chine en amont de son déplacement. C'était vendredi dernier en fin de matinée à l'Élysée. Des personnes très informées et bénéficiant pour la plupart d'une grande influence médiatique. L'une des références à propos de la Chine, c'est Alice Ekman, chercheure et grande spécialiste de la Chine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Elle est également chargée de cours sur la Chine contemporaine à Sciences Po Paris et Lille. Elle a donc conseillé le président sur les enjeux de ce voyage, alors qu'elle est aussi l'une des spécialistes phares du sujet dans les médias. C'est d'ailleurs elle qui est interviewée par l'AFP dans une dépêche publiée ce matin. Alice Ekman est interrogée notamment sur la question des droits de l'homme. Elle répond que, je cite, « la diplomatie française n'est pas aveugle et qu'elle est assez lucide, selon ses mots, mais que la méthode publique n'est pas toujours la plus productive et que certains sujets sont abordés à huis clos, concluant que ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas publiquement qu'ils ne sont pas abordés et discutés par les deux parties. » Fin de citation. Une analyse sur laquelle le président de la République pourrait s'appuyer d'ailleurs pour commencer à désamorcer dès ce matin les éventuelles critiques sur la manière d'aborder ou non la sensible question des droits de l'homme.
D'autres profils ont attiré votre attention, Sophie.
Parmi la liste transmise ce matin par le service de presse de l'Élysée, il y a également David Baverez, qui est un investisseur privé basé à Hong Kong depuis 2012, d'où il conseille plusieurs startups sur les investissements en Asie, diplômé d'HEC et chroniqueur pour plusieurs journaux français, dont l'Opinion, les Échos ou encore Forbes, une double casquette de conseiller économique qui travaille aussi pour des médias, et le directeur des opérations du comité France-Chine au MEDEF. On voit également dans cette liste Pierre Aski, chroniqueur à l'Obs et président de Reporters sans frontières. Enfin, Jean Lemierre, le président de la banque BNP Paribas, considéré comme l'un des banquiers européens les plus influents, ancien directeur du Trésor français, énarque, il a été président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement jusqu'en 2008 avant de rejoindre la BNP.
Merci Sophie Delpont, Jean-Luc Domenac, je me retourne vers vous, vous qui êtes un leader d'opinion, vous aussi, est-ce que vous avez été invité à l'Élysée en amont de cette visite ?
Pas cette fois-ci, mais c'est pas un problème. Dès lors qu'il y a Aski, par exemple, c'est bien ça. En revanche, j'aime pas que certains de ces conseillers, entre guillemets, se lancent dans la négation, disons, de l'importance des droits de l'homme là-bas. Cette histoire du dernier, cette histoire que plus on est dans le secret, plus c'est important. Ça, c'est vraiment des histoires à l'ère des médias, etc.
Vous restez avec nous, Jean-Luc Domenac. On vous retrouve dans une quinzaine de minutes dans la partie interview de ce journal. En France, les demandes d'asile ont augmenté de 17% l'an dernier par rapport à l'année précédente. Le seuil des 100 000 dossiers déposés auprès de l'OFPRA a été atteint. C'est ce qu'indiquait ce matin l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par la voix de son directeur, qui précisait qu'un record vieux de 40 ans était tombé. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
On va entrer avec vous dans le détail de ces chiffres qui, s'ils donnent lieu à un record, c'est vrai, en nombre absolu, ne sont pas de nature non plus à faire exploser le système de l'asile en France.
Loin de là, et c'est ce que tient à préciser d'ailleurs Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, 17% de hausse en un an, un peu plus de 100 000 demandes donc pour 68 millions d'habitants. C'est encore deux fois moins qu'en Allemagne et un taux d'acceptation en légère régression, soit un peu plus d'un tiers des demandes acceptées, 36%. L'an dernier, ce sont 43 000 personnes qui ont été protégées par la France, en comptant les premières demandes et celles qui ont été acceptées en appel. Du côté des nationalités, les Albanais arrivent en tête de ces demandes alors que leurs chances d'obtenir un statut de réfugié sont très faibles. 6,5%, c'est d'ailleurs l'un des pays ciblés par le ministère de l'Intérieur pour lutter contre les réseaux d'immigration irrégulière. Avec près de 6 000 demandeurs d'asile l'année dernière, les Afghans se situent en deuxième nationalité la plus représentée dans les demandes à l'OFPRA. Ils bénéficient en France, il faut le dire, d'un taux de protection élevé, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, en Allemagne par exemple. D'ailleurs, de nombreux Afghans sont des déboutés de l'asile à l'Allemagne qui viennent tenter leur chance en France. À noter la toujours forte représentation des Soudanais et l'émergence d'un nombre croissant de ressortissants d'Afrique francophone, guinéens, ivoiriens, congolais, algériens, dont le taux de protection là encore est assez faible. La France travaille donc aussi avec les pays d'origine et de transit en Afrique pour contrôler leurs mouvements. L'une des priorités du gouvernement, vous le savez, en matière d'asile, c'est de raccourcir les délais délai de traitement de chaque demande. Ils sont déjà relativement rapides, environ 3 mois aujourd'hui. Là, en revanche, où un temps précieux pourrait être gagné, c'est dans le dépôt de la demande d'asile, rendu extrêmement difficile dans l'idée vaine de décourager ces demandeurs. Ce sont souvent plusieurs semaines ou mois quand on est passé par un autre pays européen où l'on a dû laisser ses empreintes. Plusieurs mois d'attente donc, parfois dans la rue, même pour des familles. L'autre priorité pour le directeur de l'OFPRA et les spécialistes de l'asile, c'est d'harmoniser le droit européen, de faciliter les voies légales d'accès au territoire et d'accueillir dignement ceux qui viennent demander l'asile. On en est loin.
Merci Marie-Pierre Vérot. J'ajoute que la présidente Les Républicains de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a demandé ce matin au gouvernement de publier chaque mois désormais le nombre de personnes en situation irrégulière qui seront reconduites dans leur pays. C'est pour, dit-elle, pouvoir juger le gouvernement sur des actes. En Allemagne, un mouvement de grève d'ampleur débute aujourd'hui à l'appel d'un syndicat puissant et déterminé, IG Metall, qui estime que les fruits de la croissance industrielle outre-Rhin devraient être mieux partagés. 150 entreprises de la métallurgie sont concernées par des débrayages qui devraient s'échelonner toute la semaine. Il s'agit d'appuyer des négociations qui sont pour l'instant dans l'impasse avec le patronat, au cœur des revendications. Une hausse des salaires et la semaine de 28 heures, demande qui paraît tout à fait juste. Justifié à IG Metall. Les explications de notre correspondant permanent à Berlin, Cyril Sauvageau.
Pour le patronat, la mesure est irréaliste. Pour le syndicat IG Metall, c'est au contraire une évolution nécessaire. La possibilité pour les salariés de réduire leur temps de travail à 28 heures par semaine temporairement pendant une période de 2 ans maximum. Le syndicat de la métallurgie s'appuie sur les enquêtes menées régulièrement auprès de ses 2 millions d'adhérents et selon lesquelles la question du temps de travail arrive en tête des préoccupations. Mais jusqu'ici, les négociations sont au point mort. Principal sujet de blocage, la question financière. En cas de passage aux 28 heures, certains salariés, ceux qui s'occupent de leurs enfants par exemple ou qui ont la charge d'un parent âgé, bénéficieraient d'une prime pour compenser leur baisse de salaire. Si les entreprises doivent financer ce dispositif, alors le patronat veut en contrepartie limiter les augmentations générales de salaire. C'est l'autre revendication d'IG Metall, une hausse salariale de 6%. Les organisations patronales ne veulent pas lâcher sur les deux fronts à la fois le temps de travail et les salaires. D'où la situation de blocage actuelle et les débrayages qui ont lieu cette semaine dans quelques 140 entreprises, dans les secteurs de l'automobile et des machines-outils notamment. Un conflit qui pourrait se durcir dans les prochaines semaines si IG Metall n'obtient pas d'avancée.
Cyril Sauvageau. En Syrie, les bombardements du régime sur les rebelles et les djihadistes se poursuivent inlassablement et comme depuis le début du conflit, il y a bientôt 7 ans maintenant, ce sont les populations civiles d'abord qui font les frais de ces offensives. On vient d'en avoir encore la preuve dans les dernières heures. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour.
Comme un peu plus tôt sur la Routa, dans les environs de Damas, la province d'Idleb hier dans le nord-ouest de la Syrie a été touchée. 21 civils au moins, dont 8 enfants ont été tués.
Oui, l'offensive du régime est en cours sur le sud de la province d'Idlib depuis le 25 décembre dernier. Cette province, au nord-ouest du pays, demeure la seule de Syrie quasi entièrement contrôlée par l'opposition. Et c'est après son opération contre l'État islamique à Deir ez-Zor, tout à fait de l'autre côté, dans l'est du pays, que les forces pro-régime, toujours aidées par l'aviation russe, ont pu se redéployer sur Idlib. Concrètement, l'offensive en cours se déploie à partir du sud, le long d'un axe routier nord-sud, la route en fait qui permet de rejoindre les capitales provinciales de Hama au sud, à Alep au nord. Le contrôle de cette route est un objectif stratégique indéniable. À peu près à mi-chemin se trouve la grande base militaire et aérienne d'Abu ad-Duhur, prise par l'opposition à l'automne 2015. C'est le premier objectif des forces du régime qui progressent régulièrement vers elle et n'en serait d'ailleurs plus éloignée que d'une dizaine de kilomètres. En tout, et selon le décompte effectué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les troupes de Bachar al-Assad auraient ainsi repris près de 60 villages et hameaux dans le sud de la province d'Idlib depuis le 25 décembre. Quant au modus operandi de cette offensive, il passe à chaque fois par le bombardement aérien des localités, poussant vers l'exil les quelques centaines, parfois les quelques milliers de civils qui s'y trouvent encore et qui fuient aujourd'hui vers le nord. Cette nuit et ce matin encore, la petite localité de Jarjanas, par exemple, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la route, a été ainsi lourdement bombardée, notamment, si l'on en croit les images diffusées par les groupes de l'opposition, par des armes aériennes incendiaires, probablement russes.
Aux États-Unis, les suites toujours aussi problématiques pour la Maison-Blanche de la parution du livre à charge de Michael Wolff, Feu et Fureur à l'intérieur de la Maison-Blanche de Trump. Un ouvrage qui a provoqué une telle onde de choc que l'un des principaux protagonistes de ce livre, Steve Bannon, a cru bon de devoir rétro-pédaler hier. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Ça ne colle pas vraiment avec l'image du personnage, mais l'ancien stratège de la campagne de Donald Trump, également éphémère conseiller spécial à la Maison-Blanche, a demandé des excuses hier.
Oui, Steve Bannon, conseiller du président américain, a en effet déclaré, je cite, qu'il regrettait que le retard de sa réponse aux informations inexactes concernant Donald Trump Jr. ait détourné l'attention des réussites historiques du président et d'ajouter, Donald Trump Jr. est un patriote et un homme bien. Il a soutenu sans relâche son père et le programme qui a aidé à transformer notre pays, fermer les guillemets. Dans le livre sulfureux Le Feu et la Fureur, à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump, qui d'ailleurs prend le chemin d'un best-seller aux États-Unis, Steve Bannon semblait dire le contraire, qualifiant l'entretien des cadres de l'équipe de campagne avec des interlocuteurs russes de trahison et d'actes antipatriotiques. Cette rencontre, vous le savez, est l'une des pièces maîtresses du procureur spécial qui enquête sur une éventuelle collusion entre l'équipe Trump et la Russie pour influencer le scrutin de novembre 2016. Après la parution du livre, Donald Trump, très en colère, avait accusé son ex-conseiller d'avoir perdu la raison et avait demandé qu'il ne soit plus le président exécutif du site d'information Breitbart News. Et si Steve Bannon est éjecté de son siège de président, il pourrait ne plus avoir la moindre plateforme alors que les primaires républicaines commencent. Toujours est-il qu'après sa petite marche arrière alambiquée, Bannon a assuré qu'il soutenait toujours l'ancien média de l'immobilier devenu président et plusieurs commentateur américain de s'interroger sur son avenir et l'un d'eux d'estimer qu'avec le président actuel, tout pronostic définitif est futile. Qui sait si dans 2 mois, Bannon et d'autres évincés de la Maison Blanche ne reviendront pas aux côtés du président américain.
Nadine Epstein, la rentrée parlementaire en Grande-Bretagne. Les députés britanniques reprennent aujourd'hui le chemin de Westminster. Alors qu'on attend dans les heures qui viennent, peut-être cet après-midi, peut-être demain, un remaniement ministériel. La première ministre Theresa May doit en effet annoncer une demi-douzaine d'entrées dans le gouvernement, les poids lourds actuels devant, d'après les observateurs, conserver leur portefeuille. En Suisse, va-t-on vers un nouveau modèle de financement de l'audiovisuel public ou même peut-être vers la fin pure et simple de l'audiovisuel public? Un débat agite la Confédération helvétique depuis des semaines et ce week-end, ce débat a pris un nouveau tour avec une mobilisation des artistes et de certains parlementaires qui veulent sauvegarder le modèle existant. Alors que le 4 mars prochain, les citoyens suisses devront se prononcer sur la suppression ou non de la redevance à l'audiovisuel public. Aujourd'hui, chaque ménage participe à hauteur de 380 euros par an au financement de près de 60 chaînes de radio et de télévision, des chaînes qui proposent des contenus en français, en allemand, en italien et en romanche. Bonjour Cécile de Carvaz-Doué.
Bonjour.
25% des entreprises suisses les plus riches versent également une participation au fonctionnement de l'audiovisuel public et c'est de ces entreprises qu'est partie l'initiative de la votation du 4 mars.
Oui, alors avant, il faut vous dire quand même que le débat sur cette redevance n'a rien de nouveau en Suisse, puisqu'une votation en juin 2015 avait déjà montré la volonté des électeurs suisses de modifier cette redevance. L'idée de vouloir purement et simplement la supprimer émane en revanche, oui, de la Suisse allemande, dont les entreprises financent le plus l'audiovisuel public. Les jeunes libéraux, voire ultra-libéraux de ce canton, rejoints par une partie des conservateurs de l'UDC au pouvoir en Suisse, sont également soutenus par les entreprises de presse privées, voire certaines télé privées, qui considèrent qu'un tel impôt est d'un autre âge. Que ce sont aux citoyens finalement de choisir et de payer pour ce qu'ils regardent et ce qu'ils écoutent, et même qui considèrent que la redevance nuirait à l'économie suisse puisque les ménages pourraient réinvestir cette somme dans d'autres biens de consommation. Mais plus largement, cette initiative contre la redevance considère que l'audiovisuel public fait aujourd'hui une concurrence déloyale au privé parce que les contenus sont sensiblement les mêmes et qu'en plus, les sites internet des médias publics sont financés eux aussi par la publicité et privent ainsi les privés de parts de marché. L'idée c'est donc de supprimer cette redevance dès le 1er janvier 2019 toute action publique en faveur de l'audiovisuel audiovisuelle, sauf, précise donc la modification de la Constitution, de l'article 93 de la Constitution, sauf si la Suisse était en guerre. Alors depuis le mois de septembre, c'est-à-dire depuis l'officialisation de la votation, le débat est allé dans tous les sens. Pour les partisans de la fin de la redevance, c'est une manière de sanctionner les journalistes du service public jugés trop gauchistes. Ces partisans se placent ainsi du côté du peuple, disent-ils. C'est une manière aussi de souligner que les médias de service public sont d'un autre âge et sont appelés à disparaître avec leur public. Des arguments qui ont au départ anesthésié les opposants qui semblent, avec cette nouvelle rentrée, bien se réveiller. Sans redevance, les médias publics, disent-ils, disparaîtront avec des conséquences pour l'emploi de 13 500 salariés du groupe. Et ce sont les chaînes les plus petites qui émettent des contenus dans les montagnes peu accessibles ou dans des langues peu utilisées qui feront d'abord les frais de cette décision du peuple. Sans médias publics, la culture sera financée à des fins publicitaires, clament aussi les artistes mobilisés aujourd'hui. Alors, à qui profiterait le crime? Ça, c'est la question qui tourne. Eh bien, sans doute aux premiers intéressés qui ont pondu ce texte, cette modification de la Constitution, un texte qui prévoit qu'ils pourront finalement racheter aux enchères les chaînes et les fréquences de radio et de télé publique suisse qui seraient, disent-ils pourtant, totalement obsolètes.
Merci Cécile de Kervasdoué. En Grande-Bretagne, Carrie Gracie, une journaliste en vue de la BBC, a annoncé ce matin sa démission de son poste de rédactrice en chef en Chine. Elle veut dénoncer l'inégalité salariale entre femmes et hommes au sein du service public audiovisuel britannique. Carrie Gracie a dénoncé dans une lettre ouverte publiée sur son blog une culture salariale secrète et illégale au sein de l'institution. Midi 52 sur France Culture, on retrouve maintenant notre invité Jean-Luc Domenac, politologue et sinologue, interviewé par Éric Biégala, chef du service diplomatique de France Culture.
Bonjour Jean-Luc Domenac. Alors, le président Macron ce matin a parlé de rééquilibrer les relations commerciales franco-chinoises, c'est le vœu exprimé. De quel déséquilibre est-ce qu'on parle ?
D'abord, il y a un déséquilibre économique.
Alors, en volume, c'est évident.
Effroyable.
Bon.
Il y a un déséquilibre de dynamisme aussi. C'est-à-dire que l'économie française progresse à 2% par an. L'économie chinoise, 5%, ils prétendent 6%, mais 5%, c'est déjà pas mal. Et enfin, déséquilibre de politique, car la Chine est en train est devenue la patronne de tout l'Extrême-Orient, alors que la France, elle, se contente d'une satisfaisante place de numéro 2 dans l'Europe.
Mais alors, tout le monde demande un rééquilibrage avec la Chine, y compris la première puissance économique mondiale, les États-Unis. Le ton d'ailleurs employé par Emmanuel Macron ressemble un peu à celui employé par l'administration Trump. Pour elle aussi, il faut rééquilibrer les relations, notamment commerciales, avec la Chine. Est-ce que Macron est en train de se trumpiser ?
Non, il se trumpise pas, mais il cherche à rattraper le terrain perdu et je crois que c'est plutôt bien vu. Si nous faisons quelques efforts, nous rattraperons déjà une partie du chemin. Mais jamais, évidemment, nous ne compterons jamais autant que les États-Unis. Cependant, le moment est bien choisi. Au moment où les Allemands ne sont pas très capables, disons, de s'exprimer politiquement, la France peut dire quelque chose.
Alors, comment est-ce que la France, par exemple, pourrait profiter ou s'insérer dans ces gigantesques projets d'infrastructures chinois qu'on appelle Belt and Road Initiative ou les nouvelles routes de la soie?
Non, pour l'instant, la France recherche surtout à vendre ses Airbus. Il y aura une bonne nouvelle, comme vous le savez sans doute. Il faut lancer tous nos hommes d'affaires. On n'est pas mauvais quand on s'y met. Simplement, il faudra qu'ils apprennent à parler le chinois. Il faudra que les dirigeants chinois fassent comme les Allemands. C'est-à-dire qu'il est interdit normalement de ne passer que 2 jours en Chine. Et c'est ce que fait pourtant le président. Quand Mme Merkel y va, elle y va pour une semaine. La Chine, c'est un très très grand pays maintenant. Et ils ne sont pas, pas très avares d'exigences. Et nous n'avons pas toujours répondu à leurs exigences.
Alors Emmanuel Macron vient de l'annoncer. Une visite par an, on passe à une vitesse un petit peu supérieure.
Ah, c'est bien.
Est-ce que la France peut considérer la Chine comme son partenaire privilégié en Asie?
Ouh là là,
à l'exclusion des autres.
Je ne sais pas bien. Je crois que le Vietnam est quand même le pays où nous avons encore gardé ce qui ressemble à une influence. En tout cas, nous pouvons.
Et puis la France rend du matériel au Japon, à des gens qui ne sont pas particulièrement sur la même longueur d'onde.
La vérité est que depuis une vingtaine d'années, on a décliné, disons, en Asie. Il faut le reconnaître. Hein.
Merci Eric Bigalin.
Je vous en prie.
On arrive au terme de cette interview.
On y arrive absolument.
Et de ce journal, merci beaucoup. Merci Jean-Luc Domenac d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Un point sur la météo. Le temps restera pluvieux cet après-midi sur le sud du pays. Et plusieurs départements restent en vigilance orange pour des pluies, orages et risques d'inondations, parmi lesquels le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. De l'Auvergne aux Alpes cet après-midi, le ciel restera gris. Température maximale comprise entre 4 et 9 degrés sur le nord-est, de 10 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 19 degrés sont attendus en Corse.